Mercredi 25 au vendredi 27, ferveur de travail, idées et projets de Napoléon sur notre histoire, etc., sur les ouvrages publiés, M. Méneval, détails curieux, etc. L'empereur, depuis quelques jours, a une grande ferveur de travail. Toutes les matinées se sont passées à des recherches sur l'Égypte dans les auteurs anciens. Nous avons parcouru de concert Hérodote, Pline, Strabon, etc., etc., ne prenant guère d'autres interruptions que l'instant du déjeuner sur sa petite table. Le temps demeurait toujours mauvais et l'empereur a dicté littéralement tous ces deux jours dans tout leur entier. À dîner, il nous disait qu'il se trouvait beaucoup mieux, et nous lui avons fait observer à ce sujet que depuis quelque temps, néanmoins, il ne sortait plus et travaillait 8, 10, 12 heures par jour. « C'est cela même, disait-il, le travail est mon élément, je suis né et construit pour le travail. J'ai connu les limites de mes jambes, j'ai connu les limites de mes yeux, je n'ai jamais pu connaître celles de mon travail. » Aussi j'ai failli tuer ce pauvre Méneval, j'ai été obligé de le faire relever et de le mettre en convalescence auprès de Marie-Louise, chez laquelle son emploi n'était plus qu'une véritable sinécure. L'empereur ajoutait que s'il était en Europe et tranquille, son plaisir serait d'écrire l'histoire. Il se plaignait de la manière pitoyable dont il la voyait traitée partout. Les recherches qu'il faisait chaque jour le lui démontraient, disait-il, au-delà de tout ce qu'il avait pu soupçonner. Nous n'avions pas de bonne histoire, et nous n'avions pu en avoir. La plupart des peuples de l'Europe étaient dans le même cas que nous, observait-il. Les moines et les privilégiés, c'est-à-dire les gens à abus, les ennemis de la vérité et des Lumières, avaient seuls exercé ce monopole. Ils nous avaient raconté tout ce qu'ils avaient voulu, tout ce qui leur avait plu, ou mieux encore, tout ce qui était dans leur intérêt, leur passion et leur vue. Il avait, disait-il, conçu le projet de redresser tout cela autant qu'il était possible. Ainsi, il eut nommé des commissaires de l'Institut ou des savants indiqués par l'opinion publique pour revoir, critiquer et reproduire nos annales. Il eût voulu aussi de la sorte accompagner les classiques, dont on nourrit notre jeunesse, de commentaires propres à les mettre en harmonie avec nos institutions modernes. Un beau programme, le concours et les récompenses, et l'on eût, disait-il, tout obtenu. Rien ne résistait à une pareille voix. Il répétait ce que je crois avoir déjà dit, que son intention avait été de faire écrire les derniers règnes de notre monarchie sur les pièces mêmes tirées des archives de nos relations extérieures. Il était encore une foule de manuscrits antiques et modernes de la bibliothèque impériale qu'il voulait faire imprimer en les coordonnant en corps de doctrine, soit dans les sciences, soit dans la morale, la littérature et les arts, etc. Il avait encore, assurait-il, beaucoup d'autres plans de la sorte. Et quelle époque se présenta jamais aussi favorable pour de pareilles idées et leur accomplissement? Quand leur retrouverait-on dans la même personne le génie pour les concevoir, la puissance pour les exécuter? Pour obvier, semblait c'est même la liberté de la presse, au déluge de mauvais ouvrages dont le public était inondé, il demandait quel inconvénient eût pu présenter un tribunal d'opinion composé de membres de l'Institut, de membres de l'Université et de délégués du gouvernement qui eussent considéré les ouvrages sous le triple rapport de la science, des mœurs et de la politique. Ils en eussent fait la critique, en eussent assigné le degré et le mérite. C'eût été, disait-il, le flambeau du public, la garantie, la fortune des bons ouvrages, la ruine, le découragement des mauvais, l'aiguillon des talents, la palme des auteurs. Toutes nos soirées ont été consacrées à l'Odyssée, dont nous demeurons enchantés. Polyphème, Tirésias, les sirènes nous ont ravis. Voici quelques détails relatifs à M. Méneval, cité plus haut par l'empereur. Ces détails seront jugés précieux parce qu'ils sont autant de faits propres à faire connaître les circonstances privées de Napoléon. L'empereur, encore premier consul, se plaignait d'être sans secrétaire. Il venait de se défaire de celui qu'il avait eu durant ses campagnes d'Italie et son expédition d'Égypte, son ancien camarade de collège, homme de beaucoup d'esprit et qu'il aimait fort, mais dont il venait d'être forcé de se séparer. Son frère Joseph lui offrit alors le sien, qu'il avait depuis peu de temps, et Napoléon, en l'acceptant, acquit un trésor. Il l'a répété plusieurs fois, c'était Ménéval, que depuis il a fait baron, maître des requêtes et secrétaire des commandements de l'impératrice Marie-Louise. Son titre auprès du premier consul fut celui de secrétaire du portefeuille. Il fut même fait à son sujet un fort long règlement, dont l'article le plus essentiel était qu'il ne devait jamais, sous aucun prétexte, avoir à lui ni secrétaire ni copiste, ce qui fut toujours strictement observé. M. Ménéval était doux, réservé, fort secret, travaillant à toute heure et en tout temps. Aussi l'empereur n'en a-t-il jamais éprouvé que satisfaction, agrément, et l'a fort aimé. Le secrétaire du portefeuille était généralement chargé de tout le courant et de tout ce qui était instantané ou d'improvisation. Que d'affaires, de projets et de pensées ont été traités et transmis par son intermédiaire. Il ouvrait et lisait toutes les lettres adressées directement à l'empereur, les classait pour son examen et écrivait sous sa dictée. On sait avec quelle célérité l'empereur dictait, si bien que le plus souvent, et pour gagner du temps, le secrétaire devait chercher à retenir les mots plutôt qu'à les transcrire, ce dont s'acquittait merveilleusement M. Ménéval, qui, par la suite, eut autorité de répondre par lui-même à bien des objets. Il aurait pu facilement acquérir beaucoup d'importance, mais c'était tout à fait hors de son inclination naturelle. L'empereur était la plus grande partie du temps dans son cabinet. On eût pu dire qu'il y passait le jour et souvent une partie de la nuit. Il se couchait à 10 ou 11 heures et se relevait vers minuit pour travailler de nouveau quelques heures. Il faisait parfois appeler M. Ménéval, le plus souvent non, et comme il arrivait à celui-ci de s'y rendre de lui-même, l'empereur, connaissant tout son zèle, répondait d'ordinaire à cet empressement « Il ne faut pas vous tuer ». L'empereur, en reparaissant le matin au cabinet, y trouvait des liasses mises en ordre à l'avance par M. Ménéval qui l'avait précédé. S'il y manquait parfois 24 heures ou 2 jours, son secrétaire le prévenait qu'il allait se laisser encombrer et que le cabinet serait bientôt plein. Ce à quoi l'empereur répliquait ordinairement, gaiement, « Ne vous effrayez pas, cela sera bientôt net ». Et en effet, en peu d'heures, l'empereur s'était mis au courant. Il est vrai qu'il répondait beaucoup en ne répondant pas, et jetant tout ce qu'il jugeait inutile, même de ses ministres, ce à quoi ils étaient faits. Ne voyant pas arriver de réponse, il savait à quoi s'en tenir. Il lisait lui-même toutes les lettres, répondant par un mot à la marge de certaines et dictant la réponse à d'autres. Celles qui étaient d'une haute importance étaient toujours mises de côté, relues 2 fois, et jamais répondues qu'après quelque intervalle. Il avait pour coutume, en sortant du cabinet, de rappeler les objets essentiels et de dire qu'il devait être prêt à heure fixe, et il l'était toujours. Si à cette heure l'empereur ne venait point, M. Ménéval le pourchassait dans le palais, souvent à différentes reprises, pour le lui rappeler. Parfois l'empereur terminait, parfois encore il répondait « À demain, la nuit porte conseil ». C'était sa phrase habituelle. Aussi disait-il avoir travaillé plus la nuit que le jour. Ce n'est pas que les affaires lui causassent des insomnies, mais seulement parce qu'il dormait à des heures ininterrompues, suivant son besoin, et que peu lui suffisait. Il arrivait souvent à l'empereur, dans le cours de ses campagnes, qu'on le réveillait subitement pour des circonstances instantanées. Il se levait aussitôt. On n'eût pas deviné à ses yeux qu'il venait de dormir. Il donnait ses décisions ou dictait des réponses avec la même clarté, la même fraîcheur d'esprit que si c'eût été en tout autre moment. C'est ce qu'il appelait la présence d'esprit d'après-minuit. Elle était complète et extraordinaire chez lui. Il est arrivé dans ces circonstances qu'on l'a réveillé, peut-être jusqu'à 10 fois dans la même nuit, et on le trouvait toujours rendormi, parce qu'il n'avait pas encore satisfait tout son besoin de sommeil. Se vantant un jour de cette facilité de sommeil et du peu qu'il lui en fallait à un de ses ministres, le général Clark, celui-ci répondit plaisamment « C'est bien ce qui nous désole, sire, car c'est souvent à nos dépens. Il nous en descend parfois quelque chose. » L'empereur faisait tout par lui-même et presque tout par la voix de son cabinet. Il nommait à toutes les places, substituant la plupart du temps de nouveaux noms à ceux dont ses ministres lui adressaient la proposition. Il lisait leurs projets, les adoptait, les rayait ou les modifiait. Il faisait jusqu'aux notes même de son ministre des Relations extérieures, qu'il dictait à son secrétaire Ménéval, pour lequel il n'avait nul secret. c'était encore par l'intermédiaire de celui-ci qu'il écrivait au souverain, observant avec eux un formulaire qu'il lui avait fait rédiger sur des protocoles du passé et à la rigueur duquel il attachait beaucoup d'importance. Les ministres travaillaient tous en commun avec l'empereur à jour fixe de la semaine, à moins de cas particuliers ou accidentels dans les affaires ou dans un des ministères. Le travail de chacun se faisait en présence de tous les autres qui pouvaient y prendre part. Chacun vidait de la sorte son portefeuille. Un registre consacrait les délibérations, il doit en exister un grand nombre de volumes. Les objets arrêtés demeuraient pour la signature, qui se faisait par l'intermédiaire du ministre, secrétaire d'État, qui la certifiait. Parfois, quelques-uns de ces objets, bien qu'arrêtés, passaient au cabinet avant la signature pour être revus et modifiés. Le ministre des Relations extérieures était le seul qui, prenant part au travail général des autres ministres, avait en outre, par la nature secrète de sa fonction, un travail particulier avec l'empereur. L'empereur confiait le travail du personnel de la guerre à un de ses aides de camp de prédilection. Duroc a joui longtemps de cette confiance, puis Bertrand et Lauriston. Le comte de Lobo a été le dernier. Monsieur Ménéval, d'une santé très faible et usé par le travail, eut besoin de repos. L'empereur le plaça alors auprès de Marie-Louise. C'était un canonicat, disait-il, une vraie sinécure. Mais il ne s'en sépara néanmoins que sous la condition de revenir à lui dès qu'il serait rétabli, ce qu'il ne manquait pas de lui rappeler toutes les fois qu'il le voyait. Avec Ménéval finit l'unité de travail dans le cabinet. Il y eut plusieurs successeurs ensemble, et le cabinet de l'empereur devint alors un bureau, une espèce d'administration assez nombreuse. L'empereur y admit, sur la recommandation d'autres qui croyaient pouvoir en répondre comme d'eux-mêmes, quelqu'un qui, en 1814, au moment de la crise, reçut l'ordre de brûler certaines pièces du cabinet. La restauration assise, il écrivit à un des ministres du roi pour lui offrir celle qui restait encore. L'empereur en trouva la preuve au 20 mars dans les papiers laissés aux Tuileries et se contenta d'écrire en marge de la lettre même du dépositaire « Un tel est un traître, un tel est un traître », et rendit le papier en cet état, tout en l'accompagnant de paroles pleines de bonté, à celui-là même qui lui avait recommandé le coupable. « Homme, du reste, pour son propre compte, disait l'empereur en parlant du recommandant, d'un dévouement et d'une fidélité à toute épreuve. » Ce fut là tout le reproche que lui fit Napoléon et toute la vengeance qu'il fit peser sur le coupable. Il doit être donc resté beaucoup de traces ou de pièces de travail du cabinet. Les débats du Parlement d'Angleterre en ont fait connaître que les réclamations solennelles de Napoléon, lors de son retour au 20 mars, ont donné pour falsifiées. Les pièces du cabinet ne seraient pas les seuls documents qui nous resteraient de cette administration, à jamais célèbre. Il doit exister 20 ou 30 volumes in quarto de la correspondance des campagnes d'Italie et d'Égypte recueillies et classées par ordre. Il doit exister aussi peut-être 60 ou 80 volumes in folio des délibérations du Conseil des ministres recueillies par les secrétaires d'État, ducs de Bassano et comtes d'Arru. Enfin, les procès-verbaux du Conseil d'État rédigés et mis en ordre par M. Locré. Voilà de vrais et grands titres de gloire pour Napoléon. C'est sur ces monuments immortels et avec eux qu'ont marché les gouvernements qui ont suivi, et c'est là que viendront inévitablement puiser désormais les administrations de tous les temps et de tous les pays. Les bases posées par lui ont été sûres et solides, tant les jalons ont été bien placés, tant les racines ont été profondes, tant enfin tout cet ensemble porte le caractère du génie et la rectitude de la durée. Samedi 28. Parole caractéristique touchant ma femme, et dictée de l'empereur pour une nouvelle partie de ses mémoires. Aujourd'hui, l'empereur a profité d'un peu de beau temps pour faire 2 tours en calèche. Il avait besoin, disait-il, d'être secoué. Il lui restait un peu de fluxion, sa joue gauche demeurait enflée. Il est rentré sur les 3 heures. Quelque temps après, le travail lui manquant, il m'a fait appeler. Nous avons fait quelques tours de jardin. Ayant aperçu le docteur, il l'a fait approcher et en a appris que, la veille, les commissaires russes et autrichiens, s'étant présentés à la porte de Longwood, ils en avaient été repoussés par la consigne imposée par le gouverneur. Désormais seul, l'empereur, après bien des objets, est venu à parler de ma femme, de ce qu'elle pouvait faire, de ce qu'elle serait devenue, etc. Il est hors de doute, disait-il ensuite, que votre situation à Sainte-Hélène ne la fasse rechercher beaucoup et n'inspire un vif intérêt. Tout ce qui se rattache à ma personne reste cher à bien du monde. D'ici, je donne encore des couronnes. Oui, mes chers amis, quand vous retournerez en Europe, vous recevrez des couronnes. Et puis, revenant à ma femme, son meilleur parti, disait-il, avec une grâce et une bonté touchantes, serait d'aller passer son veuvage auprès de madame ou de quelqu'un des miens. Ils auraient sans doute bien du plaisir à prendre soin d'elle, etc. Au retour, l'empereur s'est mis au travail. La campagne d'Italie était à peu près finie. Il m'a pourvu d'un nouveau sujet. Note, écrivez. C'est ainsi que s'exprimait soudainement l'empereur quand il lui venait une idée. Voici ce qu'il dicta littéralement en ce moment. Il n'y a rien eu de changé, il ne l'a jamais relu. Note. La campagne d'Italie se trouvant finie, la Scazès, d'ici à 8 jours, entreprendra l'époque depuis la rupture du traité d'Amiens jusqu'à la bataille d'Iéna. En 1802, toute l'Europe est pacifiée. Bientôt après, toute l'Europe se met en guerre. La République change et devient empire. La question maritime devient la question dominante dans la rupture de la paix d'Amiens. La Scazès commencera par faire analyser, sous ses yeux, au petit Emmanuel, les moniteurs de cette époque. Il en fera au moins 6 ou 7 par jour, ce qui fera 180 dans un mois, ou une époque de 6 mois. Il faudra qu'il y ait au moins 6 mois d'analyser avant que nous commencions le travail. La partie antérieure à cette époque et celle qui suivra seront préparées et faites par ces messieurs. Il faudra, dans l'analyse, suivre le modèle déjà prescrit à M. de Montholon, c'est-à-dire analyser le tout par événement, avec indication de page et de mois, sans distinction de matière. Nous aurons pour grand fait 1. Histoire de la flottille, 2. Déclaration de l'Autriche, 3. Mouvement des escadres, 4. Bataille de Trafalgar, 5. Ulm-Austerlitz, 6. Paix de Vienne, 7. Négociation de Lord Clorendale à Paris, 8. Bataille d'Iéna. À reporter à leur place, 1. Conjuration de Georges, 2. Affaire du duc d'Enghien, 3. Sacre de l'empereur par le pape, 4. Organisation impériale. Ce sera une des plus belles parties de l'histoire de France, puisque d'un côté et dans l'intervalle d'une année, on voit un pape venir en France, sacrer un empereur, ce qui ne s'était pas renouvelé depuis 1000 ans, et que dans l'autre on voit les drapeaux français flotter sur Vienne et sur Berlin, l'Empire romain dissous et la monarchie prussienne disparue. Je me complais à consigner ici, littéralement, cette lecture brute ou les idées premières de l'empereur, afin de mieux faire connaître toute sa matière. On conçoit toute l'ardeur avec laquelle mon fils et moi nous nous consacrâmes dès cet instant à ce travail dont nous sentions tout le prix. Toutefois, nous n'avions pas encore complété l'analyse de nos 6 mois quand j'ai été arraché de Longwood. Si ce travail n'a pas été accompli, quelle perte pour l'histoire ! Il ne l'a pas été. Dimanche 29, sur un trou dans le jardin. Pendant le dîner, on parlait d'une mare d'eau qui se trouve dans notre jardin, fort près de nous, et assez profonde pour qu'un agneau s'y fût jadis noyé en voulant y boire. L'empereur, à ce sujet, a dit à quelqu'un de la maison « Est-il possible, monsieur, que vous ne l'ayez pas encore fait combler ? Combien vous seriez responsable et quel chagrin vous vous prépareriez si votre fils venait à s'y noyer ? Rien n'est plus possible. » Comme on lui répondait qu'on l'avait voulu souvent, mais qu'il était impossible d'avoir des ouvriers, « Ce n'est pas une excuse, » a repris vivement l'empereur. « Si mon fils était ici, j'eusse été le comblé de mes propres mains. » L'empereur des Jaoulis m'a fait appeler. Il avait, disait-il, des renseignements et des dates à me demander sur des objets qui nous concernaient essentiellement. Belle dictée de l'empereur, détails, particularités caractéristiques, etc., observation décisive sur la mauvaise foi du cabinet britannique et sur Walter Scott, son apologiste. Toutes les fois que l'empereur traitait un sujet, pour peu qu'il s'animât, ses paroles eussent pu supporter l'impression. Souvent aussi, quand une idée le frappait vivement, il dictait à celui de nous qui était sous sa main des morceaux qui, de ce premier jet, se trouvaient du dernier fini. Ces messieurs doivent avoir beaucoup de ces dictées, toutes bien précieuses. J'en veux bien à l'état de mes yeux qui, m'empêchant d'écrire, me privait la plupart du temps de cette bonne fortune. Voici ce qu'il s'est trouvé dicté lorsque les papiers ministériels anglais parlaient des grands trésors que Napoléon devait posséder et qu'il tenait sans doute cachés. Vous voulez connaître les trésors de Napoléon ? Ils sont immenses, il est vrai, mais ils sont exposés au grand jour. Les voici. le beau bassin d'Anvers, celui de Flessingue, capable de contenir les plus nombreuses escadres et de les préserver des glaces de la mer, les ouvrages hydrauliques de Dunkerque, du Havre, de Nice, le gigantesque bassin de Cherbourg, les ouvrages maritimes de Venise, les belles routes d'Anvers à Amsterdam, de Mayence à Metz, de Bordeaux à Bayonne, les passages du Simplon, du Mont-Cenis, du Mont-Genèvre, de la Corniche, qui ouvrent les Alpes des quatre directions. Dans cela seul, vous trouveriez plus de 800 millions. Ces passages supplantent en hardiesse, en grandeur et en effort de l'art, tous les travaux des Romains. Les routes des Pyrénées aux Alpes, de Parme à la Spezia, de Savone au Piémont, les ponts d'Iéna, d'Austerlitz, des Arts, de Sèvres, de Tours, de Roanne, de Lyon, de Turin, de l'Isère, de la Durance, de Bordeaux, de Rouen, etc. Le canal qui joint le Rhin au Rhône par le Doubs, unissant les mers de Hollande avec la Méditerranée, celui qui unit l'Escaut à la Somme, joignant Amsterdam à Paris, celui qui joint la Rance à la Vilaine, le canal d'Arles, celui de Pavie, celui du Rhin, le dessèchement des marais de Bourgoin, du Cotentin, de Rochefort, le rétablissement de la plupart des églises démolies pendant la Révolution, l'élévation de nouvelles, la construction d'un grand nombre d'établissements d'industrie pour l'extirpation de la mendicité, la construction du Louvre, des greniers publics, de la banque, du canal de l'Ourcq, la distribution des eaux dans la ville de Paris, de nombreux égouts, les quais, les embellissements et les monuments de cette grande capitale, des travaux pour l'embellissement de Rome, le rétablissement des manufactures de Lyon, la création de plusieurs centaines de manufactures de coton, de filature et de tissage qui emploient plusieurs millions d'ouvriers, des fonds accumulés pour créer plus de 400 manufactures de sucre de betterave pour la consommation d'une partie de la France qui aurait fourni le sucre au même prix que celui des Indes si elles eussent continué d'être encouragées seulement encore 4 ans. La substitution du pastel à l'indigo, qu'on fut venu à bout de se procurer en France à la même perfection et à aussi bon marché que cette production des colonies, le nombre des manufactures pour toute espèce d'objet d'art, etc. 50 millions employés à réparer et à embellir les palais de la couronne, 60 millions d'ameublements placés dans les palais de la couronne en France, en Hollande, à Turin, à Rome, 60 millions de diamants de la couronne, tous achetés avec l'argent de Napoléon, le régent même, le seul qui resta des anciens diamants de la couronne de France, ayant été retiré par lui des mains des Juifs de Berlin, auxquels il avait été engagé pour 3 millions. Le musée Napoléon, estimé plus de 400 millions et ne contenant que des objets légitimement acquis ou par de l'argent ou par des conditions de traité de paix connues de tout le monde, en vertu desquelles ces chefs-d'œuvre furent donnés en commutation de cessions de territoire ou de contributions. Plusieurs millions amassés pour l'encouragement de l'agriculture, qui est l'intérêt premier de la France, l'institution des courses de chevaux, l'introduction des mérinos, etc. Voilà qui forme un trésor de plusieurs milliards qui durera des siècles. Voilà les monuments qui confondront la calomnie. L'histoire dira que tout cela fut accompli au milieu de guerres continuelles, sans aucun emprunt, et même lorsque la dette publique diminuait tous les jours et qu'on avait allégé les taxes de 50 millions. Des sommes très considérables demeuraient encore dans son trésor particulier. Elles lui étaient conservées par le traité de Fontainebleau comme résultant des épargnes de sa liste civile et de ses autres revenus privés. Elles furent partagées et n'allèrent pas entièrement dans le trésor public, ni entièrement dans celui de la France. Dans une autre occasion, l'empereur, lisant dans un journal anglais que Lord Castlereagh, dans une assemblée en Irlande, avait dit que Napoléon avait déclaré à Sainte-Hélène qu'il n'aurait jamais fait la paix avec l'Angleterre que pour la tromper, la surprendre et la détruire, et que si l'armée française était attachée à Napoléon, c'est parce qu'il donnait en mariage à ses soldats les filles des plus riches familles de son empire. L'empereur ému dicta « Ces calomnies contre un homme qu'on opprime avec une telle barbarie et qu'on prend à la gorge pour l'empêcher de parler seront repoussées par toutes les personnes bien nées et capables de sentir. » Quand Napoléon était sur le premier trône du monde, alors sans doute ses ennemis ont eu le droit de dire tout ce qu'ils ont voulu. Sa conduite était publique et servait de suffisante réponse. Quoi qu'il en fût, il était du département de l'opinion et de l'histoire. Mais aujourd'hui, de nouvelles et basses calomnies tiennent à la dernière lâcheté et ne rempliront pas leur but. des millions de libelles ont paru et paraissent tous les jours. Ils sont sans effet. 60 millions d'hommes des contrées les plus policées de l'univers élèvent leur voix pour les confondre. Et 50 000 Anglais qui voyagent maintenant sur le continent apportent chez eux la vérité au peuple des trois royaumes qui rougiront d'avoir été si grossièrement trompés. Quant au Bill qui a traîné Napoléon sur un roc, c'est un acte de proscription semblable à ceux de Sylla, et pire encore. Les Romains poursuivirent Hannibal jusqu'au fond de la Bithynie. Flaminius obtint du roi Prusias la mort de ce grand homme, et pourtant, à Rome, Flaminius fut accusé d'avoir agi ainsi pour satisfaire sa haine personnelle. En vain allégua-t-il qu'Hannibal, encore dans la vigueur de l'âge, pouvait être dangereux, que sa mort était nécessaire. 1000 voix répondirent que ce qui était injuste et ingénéreux ne peut jamais être avantageux à une grande nation, que de tels prétextes justifieraient les assassinats, les empoisonnements et toute espèce de crime. Les générations qui suivirent reprochèrent cette lâcheté à leurs ancêtres. Elles auraient payé bien cher pour effacer une telle tache de leur histoire. Depuis le renouvellement des lettres parmi les nations modernes, il n'est point de génération qui n'ait uni ses imprécations à celles que proféra Hannibal au moment de boire la ciguë. Il maudissait cette Rome qui, à une époque où ses flottes et ses légions couvraient l'Europe, l'Asie et l'Afrique, assouvissait sa colère sur un homme seul et désarmé parce qu'elle le craignait ou parce qu'elle prétendait le craindre. Mais les Romains ne violèrent jamais l'hospitalité. Sylla trouva un asile dans la maison de Marius. Flaminius, avant de proscrire Hannibal, ne le reçut pas à bord de son vaisseau et ne lui déclara point qu'il avait des ordres de le bien recevoir. La flotte romaine ne le transporta pas au port d'Ostie. Bien loin d'avoir recours à la protection des lois romaines, Hannibal préféra confier sa personne à un roi d'Asie. Lorsqu'il fut proscrit, il n'était pas sous la protection de l'étendard romain, il était sous les drapeaux d'un roi ennemi de Rome. Et si jamais, dans les révolutions des siècles, un roi d'Angleterre vient à comparaître devant le redoutable tribunal de sa nation, les défenseurs insisteront sur l'auguste caractère de roi, le respect du haut trône à toute tête couronnée, à loin du seigneur. Mais ses adversaires ne seront-ils pas en droit de répondre? Un de ses ancêtres proscrivit son hôte en temps de paix, n'osant pas le mettre à mort en présence d'un peuple qui avait ses lois positives et ses formes régulières et publiques, il fit exposer sa victime sur le point le plus insalubre d'un roc situé au milieu de l'océan, dans un autre hémisphère. Cet hôte y périt après une longue agonie, tourmenté par le climat, les besoins et les injures de toute espèce. Eh bien, cet hôte était aussi un grand souverain, élevé sur le bouclier de 36 millions de citoyens. Il fut maître de presque toutes les capitales de l'Europe. Il vit à sa cour les plus grands rois. Il fut généreux envers eux tous. Il fut pendant 20 ans l'arbitre des nations. Sa famille était alliée à toutes les familles souveraines, même à celle de l'Angleterre. Il fut 2 fois loin du Seigneur. Il fut 2 fois consacré par la religion. Ce dernier morceau est certainement très beau de vérité, de diction et surtout de richesses historiques. Nota bene. Ici, je ne puis m'empêcher de m'arrêter un instant. Flaminius, est-il dit plus haut, avant de proscrire Hannibal, ne le reçut pas à bord de son vaisseau et ne lui déclara point qu'il avait des ordres de le bien recevoir. Ce point était celui qui révoltait le plus l'empereur et nous tous, parce que là était notre droit et notre justice, en même temps que l'outrage à la bonne foi et l'effronterie immorale de l'administration anglaise. Napoléon, ainsi qu'on a pu le voir dans les cours de mes récits, y revenait avec indignation toutes les fois que l'occasion s'en présentait, tandis que les ministres anglais, de leur côté, n'ont cessé d'avoir recours même à des moyens indirects pour essayer de répandre la dénégation ou du moins le doute. Ainsi, Sir Walter Scott, dans son histoire, écrite d'ailleurs toute dans leurs intérêts, semble avoir fait de cette circonstance le point capital de son livre. Il accorde que l'honneur du gouvernement anglais se trouve entièrement lié aux transactions qui conduisirent Napoléon à bord du Bellérophon, et ce point établi, il s'évertue, laborieusement, pour arriver à le justifier. il y revient spécialement à satiété dans trois endroits, comme si, à défaut de conviction chez le lecteur, il espérait l'entraîner à force de fatigue, et conclut, comme de raison, que Napoléon n'a été que le prisonnier de l'Angleterre, prisonnier de guerre, tombé à la discrétion de son gouvernement, qu'il a été traité avec beaucoup d'indulgence, et que ses plaintes et celles des siens sont injustes, etc., etc. Mais voici quelques observations qui seront décisives. Que celui qui cherche la vérité de bonne foi et qui trouve quelque intérêt à fixer son attention sur un point historique si important, s'il veut se délivrer de tous les faux fuyants, de l'obscurité fastidieuse dont on cherche à l'entourer et juger de toute la sincérité, de toute la droiture employée dans cette transaction, qu'il renferme l'historien romancé pour qu'il ne puisse lui échapper dans le cercle étroit des faits et lui demande, premièrement, est-il vrai ou non que, lorsque les envoyés de Napoléon expédiaient au capitaine Maitland pour savoir s'il avait connaissance des sauf-conduits promis pour son passage et s'il pensait que le gouvernement anglais y mit de l'empêchement, celui-ci ait répondu, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, qu'il ne saurait dire quelles pouvaient être les intentions de son gouvernement, mais qu'il allait en référer à son chef. Or, il savait déjà officiellement, c'est lui qui nous l'apprend encore, que les sauf-conduits ne seraient point accordés, qu'il fallait intercepter Napoléon à tout prix, que de sa captivité dépendait le repos de l'Europe, et qu'il existait des ordres pour disposer de sa personne. Ainsi, le capitaine Maitland, dans ses dépêches à son amiral, convient-il naïvement que ses réponses n'étaient qu'autant de pièges pour retenir Napoléon et donner le temps à la croisière de recevoir les renforts. Deuxièmement, est-il vrai ou non qu'en dépit de ces données positives et officielles, le capitaine Maitland, dissertant avec les envoyés sur la sortie de France de Napoléon, leur ait dit « Pourquoi ne demanderait-il pas un asile en Angleterre ? C'est toujours lui qui nous l'apprend. Une telle suggestion n'était donc qu'un piège. » Troisièmement, est-il vrai ou non que, lors de la seconde conférence, le capitaine Maitland ait dit au comte de Las Cases que, conformément à ses ordres, il croyait pouvoir se hasarder à recevoir Napoléon à bord de son vaisseau et le conduire en Angleterre? Ce sont encore ses propres aveux. Il est vrai que, plus tard, dans sa dépêche officielle, loin de répéter ces mêmes paroles, il dit que, craignant l'impossibilité d'empêcher de petits bâtiments de gagner la mer, et regardant comme de la plus haute importance d'obtenir possession de la personne de Bonaparte, il s'est laissé persuader d'accéder à la proposition de le recevoir à son bord et de se rendre avec lui en Angleterre. Mais comment comprendre et expliquer de pareilles contradictions de la part de cet officier, et comment les croire si l'on avait sa relation sous les yeux? Quatrièmement, est-il vrai ou non que, M. de Las Cases lui ayant demandé s'il pensait que Napoléon serait bien reçu en Angleterre, il ait répondu qu'il ne connaissait pas du tout quelle était l'intention du gouvernement anglais, mais qu'il n'avait aucune raison de supposer qu'il ne fût pas bien reçu. C'est toujours lui qui nous l'apprend. Or, il savait que sa captivité était résolue et que des ordres étaient donnés pour disposer de sa personne, ainsi qu'il nous en instruit lui-même, comme nous l'avons déjà dit plus haut. Cinquièmement, est-il vrai ou non qu'à la lettre officielle du grand maréchal, portant que, d'après le compte rendu par M. le comte de Las Cases à l'empereur de sa conversation avec le capitaine Maitland, laquelle conversation contenait l'offre faite par lui, capitaine Maitland, de recevoir Napoléon et de le conduire en Angleterre, Sa Majesté, au défaut du sauf-conduit attendu pour les États-Unis, se rendrait volontiers en Angleterre comme simple particulier pour y jouir de la protection des lois du pays. Est-il vrai ou non, disons-nous, que le capitaine Maitland ait évité soigneusement de répondre à cette lettre parce qu'il lui eût fallu consacrer par écrit les restrictions verbales qu'il prétend avoir si souvent réitérées au comte de Las Cases? Peu de mots pourtant eussent suffi pour éclaircir tout malentendu supposé, mais ils eussent privé le capteur de la précieuse capture qui faisait l'objet de toute sa convoitise. Et son silence ici n'est encore qu'un piège. Sixièmement, Est-il vrai ou non que la lettre de l'empereur au prince régent, que l'on trouve partout, excepté dans la relation du capitaine Maitland, respire toute la confiance que le capitaine anglais était venu à bout d'inspirer? L'intention, la croyance de Napoléon y sont explicites. Est-il vrai ou non que cette lettre ayant été communiquée avant l'arrivée de l'empereur par le comte de Las Cases au capitaine Maitland, celui-ci n'a point fait la moindre observation relative aux restrictions qu'il prétend avoir si souvent réitérées et auxquelles cette lettre se trouve si fort en opposition? Une observation, pourtant, à cet égard, eût été alors bien naturelle, mais elle eût pu suffire pour changer la détermination de Napoléon, et dès lors, l'attente et les desseins des ministres anglais se trouvaient frustrés. Aussi ne fut-elle pas faite. Septièmement, est-il vrai ou non, premièrement, que dans la lettre officielle du général Bertrand au capitaine Maitland, il y soit positivement exprimé que l'empereur se rend en Angleterre pour y jouir de la protection de ses lois, deuxièmement, dans sa lettre au prince régent, qu'il se met sous la protection des lois du peuple britannique, troisièmement, qu'en mettant le pied à bord du Bellérophon, il ait dit au capitaine Maitland qu'il venait se mettre sous la protection des lois d'Angleterre. Est-il vrai ou non, dirons-nous, qu'au mépris d'expressions si positives, si réitérées et si connues du capitaine Maitland, ce capitaine, dans son rapport officiel, les ait traduites en celles que « Napoléon est venu remettre sa personne à la générosité du prince régent » Huitièmement, est-il vrai ou non que, lorsque les généraux Lallemand et Gourgaud demandèrent au capitaine Maitland une espèce de reconnaissance ou d'attestation qui prouvait leur venue volontaire et confiante à bord du Bellérophon, ce qu'il crut être dans l'obligation de leur accorder, le comte de Las Cases lui ait proposé en même temps, pour leur propre garantie mutuelle, d'arrêter une espèce de procès-verbal ou protocole de ce qui se serait passé entre eux, qu'il l'ait rédigé avec une telle impartialité qu'après l'avoir lu, le capitaine Maitland ait dit qu'il le signerait, que cet écrit soit demeuré longtemps en cet état sur son bureau et que, pressé d'en finir, le capitaine ait déclaré franchement qu'il s'y refusait, d'après l'observation faite par quelqu'un survenu depuis, l'amiral Cockburn apparemment, qu'une telle pièce pourrait créer des embarras au gouvernement. Mais en voilà assez sans doute pour pouvoir prononcer en connaissance de cause. À présent que les apologistes du gouvernement anglais ou ses agents se torturent en tous sens, qu'ils entassent les arguments, dénaturent les faits, créent des circonstances, inventent des conversations et des incidents, qu'ils s'appuient victorieusement sur une erreur de date, vraie ou fausse, qui ne saurait être d'aucun poids parce qu'elle demeure sans intérêt, qu'il se forge un terrain pour y combattre avec plus d'avantages, par exemple, qu'il reproche au comte de Las Cases d'avoir avancé qu'on avait fait des conditions avec lui, ce dont ni lui ni la protestation de Napoléon ne disent pas un mot, le tout afin d'être fort dans le nier, qu'on fasse intervenir des témoins pour attester que ces conditions n'ont point été accordées, etc., etc. Et que de tout cela on déduise imperturbablement qu'il demeure évident que Napoléon n'était qu'un prisonnier de guerre qui s'était livré à discrétion, avait imploré la générosité du gouvernement anglais, avait été traité avec une louable indulgence, etc., etc. Chacun désormais peut décider sans peine entre ce plaidoyer et celui de l'illustre victime qui, de son côté, s'écrie et proteste qu'il est venu librement à bord du Bellérophon, qu'il y est venu à l'instigation même du capitaine qui a dit avoir autorité de le recevoir et de le conduire en Angleterre, si cela lui était agréable, qu'il s'est présenté de bonne foi pour se mettre sous la protection des lois d'Angleterre, que si le gouvernement, en donnant les ordres de le recevoir, n'a voulu que tendre une embûche, il a forfait à l'honneur et flétri son pavillon, ne feignant que de lui tendre une main hospitalière afin de s'en saisir et de l'immoler. Mais je reviens aux dictées de l'empereur. Il dictait toujours sans nulle préparation. Je ne lui ai jamais vu dans aucun cas faire des recherches sur notre histoire, ni sur aucune autre. Pourtant, personne n'a jamais plus heureusement cité l'histoire avec plus de justesse, plus d'à-propos, ni plus souvent. On eût dit même qu'il ne la savait qu'en citation, et que ces dernières lui venaient comme par inspiration. C'est ici pour moi le lieu de dire quelque chose qui m'a souvent occupé, sans que j'aie pu me l'expliquer, mais qui est trop remarquable et dont j'ai été trop souvent le témoin pour le passer sous silence. c'est qu'on eût dit qu'il existait en Napoléon une foule d'objets qui demeuraient, comme en réserve, pour apparaître avec éclat dans les circonstances soignées, qui, dans les moments d'insouciance, semblaient plus que sommeiller, lui être pour ainsi dire étranger. Pour l'histoire, par exemple, combien de fois ne m'a-t-il pas demandé si Saint-Louis était avant ou après Philippe le Bel ou autre chose semblable? Eh bien, l'occasion arrivait-elle pour lui, alors il faisait sans hésiter les citations les plus minutieuses. Et lorsqu'il m'est arrivé de douter parfois et que j'ai pu vérifier, le tout était de la plus scrupuleuse exactitude. Je ne l'ai jamais trouvé en défaut. Autre singularité de même nature, l'empereur, dans l'oisiveté de la vie et le bavardage, estropiait souvent les noms les plus familiers, même les nôtres. Je ne crois pas que cela lui fût arrivé en public. Je lui ai entendu 100 fois, dans nos promenades, réciter la fameuse tirade d'Auguste, et jamais il n'a manqué de dire « Prends un siège, Sylla ». Il faisait la plupart du temps des noms propres à sa fantaisie, et une fois adopté, il demeurait toujours, bien que nous prononçassions les véritables 100 fois par jour à ses côtés. Et si nous eussions adopté les siens, son oreille eût été choquée. Il en était de même de l'orthographe. La plupart du temps, il n'en écrivait pas un mot, et si ses copies lui eussent été portées avec de pareilles fautes, il s'en fût plaint. Un jour, l'empereur me disait « Vous n'écrivez pas l'orthographe, n'est-ce pas ?» Ce qui fit sourire malignement le voisin, qui prenait cela pour un jugement. L'empereur, qui s'en aperçut, reprit « Du moins, je le suppose, car un homme public et dans les grandes affaires, un ministre ne peut, ne doit pas écrire l'orthographe. Ses idées doivent courir plus vite que sa main. Il n'a le temps que de jeter les jalons. Il faut qu'il mette des mots dans les lettres et les phrases dans les mots. C'est ensuite au scribe à débrouiller tout cela. » Or l'empereur laissait beaucoup à faire aux scribes, il était leur désolation. Son écriture composait de véritables hiéroglyphes. Elle était illisible souvent pour lui-même. Un jour, mon fils, lui lisant à des chapitres de la campagne d'Italie, s'arrête tout court, cherchant à déchiffrer. « Comment, le petit âne, dit l'empereur, ne veut pas relire son écriture ? Sire, c'est que ce n'est pas la mienne. » « Et de qui donc ? Celle de votre majesté. Comment, petit drôle, prétendez-vous m'insulter ?» Et l'empereur, prenant le cahier, fut fort longtemps à chercher. Et puis il le jeta en disant « Il a, ma foi, raison, je ne saurais dire ce qu'il y a. » Il lui est arrivé souvent de me renvoyer les copistes pour essayer de leur déchiffrer ce qu'il n'avait pu retrouver lui-même. L'empereur expliquait la netteté de ses idées et la faculté de pouvoir, sans se fatiguer, prolonger à l'extrême ses occupations, en disant que les divers objets et les diverses affaires se trouvaient casés dans sa tête comme ils eussent pu l'être dans une armoire. « Quand je veux interrompre une affaire, disait-il, je ferme son tiroir et j'ouvre celui d'une autre. Elle ne se mêle point et ne me gêne ni me fatigue point l'une par l'autre. » Jamais non plus il n'avait éprouvé, disait-il, d'insomnie par la préoccupation involontaire de ses idées. Veux-je dormir, je ferme tous les tiroirs et me voilà au sommeil. Aussi observait-il qu'il avait toujours dormi quand il en avait le besoin et à peu près à volonté.